Merci à toutes les deux pour ces exposés passionnants et très précieux, parce que déjà, ça nous donne notre aperçu de l'état d'urgence, de sa jeunesse, de ses effets, et c'est surtout aussi parce qu'il nous permet de voir les expériences vécues de l'intérieur, à la fois la genèse, les pressions, la solitude qui peut y avoir dans ces moments-là à vouloir résister à ça, et puis évidemment les effets sur les familles, avec cet aspect tout à fait discriminatoire, islamophobe de la répression antiterroriste aujourd'hui, avec ce profilage communautaire. Il y aurait énormément de choses à dire sur ce que vous avez dit toutes les deux, et je vais laisser la parole à la salle pour une petite discussion d'un petit quart d'heure.
Alors, on m'a signalé qu'il fallait que vous utilisiez des micros. Donc, je ne sais pas si on peut faire passer des micros. Et si ça marche, comment ça marche, je ne sais pas. Allez-y, bon.
Merci pour vos deux témoignages. Je tiens à vous féliciter. Je tiens à vous féliciter.
Vous méritez encore ce titre.
Même si vous ne l'êtes plus, c'est pas grave. Parce que, pour en revenir à ce que vous venez de dire, la société actuelle, elle est en train de se fragmenter. Mais vraiment, de tous les côtés à la fois, c'est-à-dire, vous avez souligné le point essentiel que moi j'ai relevé depuis quelques années, c'est qu'on est en train de détruire la cohésion qui est à la fois sociale et nationale. Il n'y a plus d'État-nation, enfin, voilà. Je tiens à vous féliciter, mais je constate, madame la députée, que vous faites partie d'un foyer, d'un microcosme, je ne sais pas pourquoi. Il y a Michel Onfray qui est pas loin de chez vous, et qui dénonce certains... Donc il y a un foyer, peut-être que vous êtes déjà deux, donc ça fait un rassemblement. Non, voilà, je
Oui, madame.
Oui. J'ai essayé de m'exposer. Je m'interroge un peu, je crois d'ailleurs que des juristes se sont emparés de l'expression. Vous avez cité, et on a de sérieuses raisons de penser que cette personne est présumée coupable. Hein. Et donc, voilà, je voulais savoir si vous en saviez davantage sur le fait que des juristes s'interrogent sur cette expression qui va aussi être on ne peut plus flou.
Et bien, c'est une raison
sérieuse de penser.
C'est celle qui a été votée.
Je comprends qu'on s'interroge sur cette phrase parce que je ne suis pas juriste, mais je me suis interrogée aussi sur cette question. Je dirais que c'est dans la prolongation du 20 juillet 2016 que ça prend encore plus son sens. C'est-à-dire que les députés ont voté que était toute personne susceptible d'avoir été en contact avec une personne représentant un potentiel danger, etc. En juillet, on est passé au stade supérieur parce qu'il suffit d'avoir été en contact. Le législateur ne s'est pas posé la question de savoir comment on allait définir la notion de contact. Moi, je ne sais pas. De toute façon, j'ai demandé la suppression de cet article, donc je me sens au moins dédouanée de ça. Mais le problème, c'est que je ne sais toujours pas ce que c'est que le contact. Est-ce que quand je retweete sur Twitter la position de quelqu'un, je suis en contact? C'est possible. C'est tout à fait possible. Est-ce que si je me retrouve avec dans un mail groupé avec cette personne, oui, je pense que ça peut être considéré comme étant en contact. Et c'est là où ça devient grave, c'est qu'en juillet 2016, on est passé à la surveillance de masse. De façon beaucoup plus éclatante, on va dire. Voilà. Et pour revenir sur la notion de cohésion sociale, c'est bien ce qui m'a fait frémir le plus au congrès de Versailles. C'est qu'alors qu'on avait eu un discours du Premier ministre norvégien suite à la tuerie de Toya, qui était un discours de cohésion sociale et de paix, et de culture nationale, etc. C'est comment on fait, on donne corps à un pays en prenant en compte toutes ses composantes. Il y était dans le discours du Premier ministre norvégien, mais il n'y avait pas un mot de ça dans le discours de François Hollande. Et c'est en ça que c'était terrifiant. Parce qu'il n'y avait pas un seul mot de cohésion sociale. Donc voilà.
Juste un minute, parce que justement, ça me rappelle une affaire en parlant de discours guerrier. Pour vraiment vous illustrer à quelles extrémités ça peut conduire. On a donc une dame qui se rend avec son enfant chez un praticien. Et bon, apparemment, le foulard qu'elle porte le gêne. Mais il le gêne au point qu'il va aller la signaler à la gendarmerie comme une islamiste. Elle va être convoquée. Bon, la gendarmerie ne va pas le prendre au sérieux. Et ce qui est intéressant, elle va adresser une réclamation au Conseil de l'Ordre. Et ce qui est intéressant, c'est que dans son courrier d'explication, il fait référence, en les citant, au discours guerrier de François Hollande et de Manuel Valls, en disant « nous sommes en état de guerre et voilà, avec les islamistes, on ne discute pas, etc. etc. » Aujourd'hui, il est poursuivi devant la chambre disciplinaire.
Je voudrais juste rajouter quelque chose par rapport à la question qui a été posée, même si je vous dis juste que par rapport à votre question sur « on a de sérieuses raisons de penser que », c'est tout à fait lié à l'antiterrorisme préventif, dont on reparlera certainement aujourd'hui, et à la répression des intentions terroristes. Et sur ces questions-là, les juristes parlent de répression de l'état prédélictuel, donc avant que quelque chose soit commis, avant le délit, et je vous recommande l'ouvrage de Julie Alix, qui pour moi est la référence hein, sur terrorisme et droit pénal, et vraiment elle explique très bien tout ça, et comment les juristes ont pensé ça. Voilà. Je refais la parenthèse.
Sur l'aspect préventif, je voulais dire que je n'ai pas hésité à citer Minority Report dans l'hémicycle le fameux mois de juillet 2016, parce qu'on est exactement dans un scénario catastrophe. On est aussi dans des séries comme Black Mirror où, grâce à la technologie, on va essayer de savoir ce que vous pensez avant même que vous passiez à l'acte. On est typiquement dans ce cas de figure, mais vraiment. Et je voulais juste dire, il y avait eu un... C'était janvier... Ça va me revenir après. Parce qu'il s'est passé quelque chose, effectivement, fin janvier 2016. Oui, ça y est. Pour vous dire, je suis pas persuadée qu'on ait tous mesuré l'ampleur de la catastrophe que représente l'application de l'état d'urgence, même dans des milieux extrêmement informés et impliqués. Fin janvier 2016, réunion des passants-nous, l'association à la Bourse du Travail à Saint-Denis. Et on parle d'état d'urgence, et je sais qu'il y a eu une intervention du président honoraire de la Ligue des droits de l'homme, M. Tubiana, qui s'exprime à ce jour-là et qui me dit « Oui, mais vous vous rendez compte, c'est terrible les mesures qui viennent d'être votées, car si nous sommes dans un... si un gouvernement d'extrême droite arrive au pouvoir prochainement, il aura toutes les cartes et toutes les lois pour pouvoir appliquer finalement cette discrimination raciale, cette discrimination en tout genre, etc. Et je me souviens très bien ce que je lui ai répondu, parce que c'est quelque chose qui m'a marqué. Je lui ai dit, mais il n'y a pas besoin d'attendre l'arrivée au pouvoir d'un gouvernement d'extrême droite. Enfin, il faut ouvrir les yeux 5 minutes. Les perquisitions administratives, les assignations à résidence sur des militants qui n'ont rien à se reprocher, sur des personnes qui veulent juste... vivre leur religion comme elles le souhaitent, en paix, etc. C'est aujourd'hui que ça se passe. Enfin, on n'est pas en train de rêver, on n'est pas en train de se projeter dans un hypothétique gouvernement de Marine Le Pen ou de je ne sais qui. C'est aujourd'hui. Et c'est ça qui m'a vraiment mise hors de moi. C'est que finalement, même Bernard Cazeneuve, hein, je reviens sur les recours qui ont eu lieu par rapport aux assignations à résidence, par rapport à des fameuses notes blanches qu'on peut assimiler à des lettres de cachet, rien de plus. Notes blanches qui sont censées ne plus exister, normalement. J'ai posé plusieurs questions écrites au gouvernement, j'ai jamais eu de réponse à ce sujet. Je me réponds que ça n'existe plus, alors qu'on sait très bien que ça existe.
Ils les produisent dans
et puisqu'ils les produisent, sachant que le gouvernement et lui-même, enfin, que les décisions du ministère de l'Intérieur sont condamnables, et qu'effectivement, lors des recours, on donne justice aux plaignants, qui a été signé à résistance. Oh, quel lapsus. Bernard Cazeneuve a lui-même suspendu des assignations à résidence parce qu'il savait qu'il allait perdre les recours. Hein. Oui, il y a cette notion-là aussi. Vous vous rendez compte un peu d'un ministre de l'Intérieur qui sait qu'il a tort, mais qui va jusqu'au bout, jusqu'au dernier moment, où pour ne pas avoir tort devant la justice, il recule devant les assignations à résidence. C'est abominable. Mais cette notion de si jamais on a un gouvernement d'extrême droite, ça va être terrible. Désolée, c'est terrible. maintenant.
Il y avait une autre question ?
Oui, je voudrais, c'est moins une question d'ailleurs qu'une information, à propos de la cohésion sociale. La répression annoncée du terrorisme donne des effets tout à fait particuliers, puisque un certain nombre d'entreprises ou de services ont mis en place des adresses mail, radicalisation, rabat, etc., pour que dans les services ou dans les entreprises, on signale les collègues de travail dont le comportement pourrait laisser penser que, etc. Et c'est fait tout à fait officiellement dans un certain nombre de très gros services. Je suis membre du MRA, donc nous avons protesté à ce sujet. Sans effet aucun, bien entendu, et on nous a dit, mais on ne comprend pas pourquoi vous vous inquiétez, parce que tout se passe bien. Et comme appel à la délation, on voit bien comment les groupes de travail fonctionnent dans ces cas-là, c'est quand même assez dramatique. Et d'autre part, la nouvelle extension de... Puisqu'il n'y a plus l'état d'urgence, n'est-ce pas, dans quelques jours, la nouvelle extension rend évidemment totalement impossible toute action contre les contrôles aux faciès, par exemple, alors qu'il y avait eu une première toute petite victoire aux civils de 5 personnes qui avaient été contrôlées pour lesquelles l'État n'avait pas pu prouver qu'il y avait un motif légitime. Et bien maintenant, il n'y aura plus besoin de rien justifier dans ce domaine. Donc c'est vraiment des évolutions qui sont tout à fait inquiétantes pour la cohésion sociale.
Je vais compléter un tout petit peu ce que vous venez de dire. Cohésion sociale, le récépissé qui fait partie quand même des propositions de François Hollande. Donc on s'est contenté pendant 5 ans de demander à François Hollande d'appliquer ce qu'il avait promis. Ni plus ni moins. Donc ce récépissé, ça nous a été refusé à chaque fois. C'est juste, on m'a dit, une question de budgétaire. Donc, on a mené une opération un bic pour un flic, hein, où on a fait une collecte de stylos et de papier pour pouvoir établir le récépissé. Juste, ça c'est, je dis ça sur le ton de la blague, mais lorsque les migrants en gare SNCF de Caen sont chassés avec leur femme, avec bébé, etc., de l'enceinte de la gare et qu'il pleut et qu'on est en plein hiver, ça c'était il y a quelques mois. Une fois que les CRS ont fait le travail d'expulser les migrants de la gare de Caen, ils ont 2 heures à combler. Pendant ces 2 heures, c'est uniquement du contrôle faciès. Et la population pourrait, enfin je veux dire, les citoyens autour pourraient aussi se mobiliser pour dire quelque chose et pour lutter contre ces discriminations qui sont tellement évidentes et qui sont sous leurs yeux, mais encore une fois, sur ce sujet-là, tout le monde regarde ses chaussures.
Il y avait une question ?
Oui. Alors, moi j'avais, enfin plus pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, mais également sur les notions juridiques, pour rebondir aussi sur le débat de ce matin. Hein. Je pense que ce qui est important vraiment de préciser, c'est que normalement le droit est fait pour poser des choses, pour encadrer, notamment donc on parlait des contrôles d'identité ou autre chose. Et pour répondre un peu à ce qui se disait ce matin, moi à mon sens il ne fait aucun doute qu'on est en période d'état d'urgence, quand même on parlait de normalisation effectivement. Nous, ce dont on se rend compte, alors moi je suis avocate, mais je pense qu'il y a d'autres confrères dans la salle, il faut quand même se rendre compte que nous, au quotidien, dans les salles d'audience, alors ça a été vraiment de manière très 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 expansive à la suite des attentats du 13 novembre, c'est que autant on est arrivé plus ou moins à lutter contre les contrôles aux faciès, parce que voilà, y a certes, on sait très bien comment ça fonctionne, autant là, c'est parfaitement légalisé avec l'état d'urgence, c'est-à-dire que. C'est pour ça, enfin, pour moi, c'est important de dire que. Passez-moi l'expression, mais quand on est basané, quand on est noir ou arabe, bah oui, l'état d'urgence, en fait, il existe. Alors, quand on dit est-ce que la population s'en intéresse ou pas, moi, je pense qu'il y a deux choses. Je pense que, alors, la population, déjà, je pense que c'est un phénomène on va pas faire un débat là-dessus, mais ce qui est sûr, c'est que quand on est dans certains quartiers, quand on pense simplement juste peut-être à garder son travail ou à en trouver, effectivement, on va pas aller faire des manifestations, mais ça, c'est un autre sujet. Et ce qui me semble aujourd'hui important, c'est que cette banalisation, on en parlait tout à l'heure un petit peu pendant la pause, il faut savoir qu'au tribunal administratif de Montreuil, il y a quand même un juge qui a interrompu une audience parce qu'il y avait une femme voilée, et parce qu'elle a eu peur panique de l'éventualité qu'elle cachait une ceinture d'explosifs sous son habit. Voilà où on en est aujourd'hui. Donc moi, je pense qu'il ne faut pas simplement... à Bobigny, au barreau de la Seine-Saint-Denis, on a fait un colloque au mois de juin auquel Karine Parot a participé. Et l'idée, on a mis en place ce qu'on appelle un comité de vigilance pour justement faire en sorte que cette normalisation ne soit pas finalement acceptée. C'est-à-dire qu'on va essayer de faire remonter systématiquement les dérives de cette normalisation. Parce que juste pour rebondir sur la question qui a été demandée tout à l'heure sur la définition, il faut savoir que le droit pénal, normalement, autorise les policiers à mener des actions quand il y a une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que la personne a commis une infraction. Là, on n'est plus dedans. Là, on est sur du comportement. Donc, moi, ça me semble relativement inquiétant. Et je pense qu'il faut rester vigilant et pas simplement... Moi, ce qui m'inquiète, c'est que dans 100 ans, on aura peut-être encore le même débat et on sortira certainement cette archive, comme on l'a fait un peu ce matin en ressortant les archives sur effectivement ce qui s'est dit pendant la guerre d'Algérie. Je pense que c'est ça qui est aujourd'hui très inquiétant.
Est-ce qu'il y a une dernière question ? Sylvie, oui.
Je voulais préciser ce que j'ai dit ce matin sur la perspective d'une éventuelle arrivée de Marine Le Pen au pouvoir sous état d'urgence. Mon idée n'était pas de dire qu'elle aurait là un outil de démultiplication de politiques arbitraires discriminatoires qui existe toujours. Simplement, le danger, pour moi, est beaucoup plus grave. C'est qu'il y a un outil de changement de régime pour qui le veut. Parce que tout opposant pourrait être poursuivi sur le fondement de cette loi, y compris jusqu'à ce qu'on bascule dans un changement de régime. C'est là la question qui, moi, me pose problème. Ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas déjà terrible.
C'est déjà le cas. Je vais y répondre directement. Pour moi, c'est déjà le cas. Quelles étaient les raisons pour les maraîchers bio en Dordogne ? Je rappelle, Elodie et Julien, 34 ans, vendant leurs légumes sur le marché du coin et à la Biocoop. Ils avaient eu le tort de distribuer des tracts contre Notre-Dame-des-Landes au péage de Mussidan, certainement autour de 2012. Leur voiture a certainement, à ce moment-là, été listée avec la plaque d'immatriculation, et donc le préfet d'Ordogne, pour faire du zèle, a demandé la perquisition. 7h du matin, petite fille de 2 ans réveillée avec des hommes en armes dans sa chambre. 3 heures de fouille à ne pas savoir quoi chercher. Il tombe sur une carte de Bruxelles, puisque Julien avait travaillé à Bruxelles. Bruxelles, Molenbeek. Attention. C'est un élément intéressant. On demande à la jeune femme si elle sait, si elle va souvent à la mosquée la plus proche. Elle ne sait pas où se trouve la mosquée la plus proche et je crois qu'elle s'en fout. Mais simplement, c'est une militante syndiquée à la CNT. Donc, je précise, CNT, plutôt anarchiste, proche de mes idées, ça veut dire qu'en tant que députée, je me suis posé la question que le jour où je ne serai plus élue, je risquais une perquisition et une assignation à résidence, étant donné que le policier en charge du département me considère comme étant la minorité agissante présente dans une centaine de manifestations. C'est aujourd'hui, je ne nie pas que ça peut prendre une autre ampleur en cas d'arrivée d'extrême droite. Je refuse par contre de penser qu'aujourd'hui ça ne concernerait qu'une partie de la population. Ça nous concerne tous, je le répète, nous sommes surveillés de façon massive, tous sans exception. Et ce qui est beaucoup plus grave en fait avec l'état d'urgence aujourd'hui, c'est que nous subissons l'autocensure. Je veux revenir sur ce sujet parce que c'est important, parce qu'il y a l'état d'urgence aujourd'hui, on ne s'exprime plus de la même façon. à la fois dans un terrain privé que dans un terrain professionnel. On n'a plus les mêmes phrases, on évite certains mots, on évite certains rendez-vous, on évite certains rendez-vous politiques, parce qu'il y a ce risque, cette épée de Damoclès, c'est ce risque de perquisition ou d'assignation qu'on a en permanence au-dessus de nous et qui est cette fois-ci bien présent. Et il modifie en profondeur nos comportements. Nos comportements même dans la sphère privée. Et là, c'est grave, c'est parce que, en fait, il n'y a même plus besoin d'avoir le gendarme répressif pour qu'on modifie nous-mêmes notre comportement. Voilà où on en est arrivé. Et peut-être que le terrain sera encore plus facile ensuite pour X candidats au Front National ou d'autres partis qui pourront naître, parce que c'est ça en fait la réalité. Et je ne pardonnerai jamais au gouvernement précédent ni à celui-ci ce qui a été mis en place. Et je ne veux pas qu'on continue à dire que ce serait moins grave que ce qui pourrait se passer, parce qu'en fait, ce qui est en train de se passer est le terreau pour le reste. Est déjà extrêmement grave.
Olivier, tu voulais intervenir ? Et après, il y a une dernière question peut-être.
Deux remarques par rapport à ces points, s'agissant effectivement. Non, ce serait bien. Mais s'agissant du préfet de Dordogne, je crois que tout est dit en parlant du préfet de Dordogne. C'est-à-dire que le problème de ces réunions de perquisition, enfin de décision de perquisition et autres, d'après, je ne sais pas comment il marche, d'après les terrains qu'on a pu avoir, c'est que la première chose qui a été circonscrite au moment où ont été prises dans la nuit du 13, 14, 15, 16, enfin, les décisions de perquisition, c'est que les premiers à être auditionnés, c'est les gars des services de renseignement qui vont commencer par exclure tous les gens qu'ils ont dans leur radar pour que, effectivement, ces gens-là ne soient pas perquisitionnés, ne soient pas soumis à assignation à résidence et autres pour pouvoir continuer à travailler sur eux. Donc effectivement, à partir du moment où vous vous retrouvez, je ne suis pas surpris que ce soit la Dordogne, parce que vous vous retrouvez avec un endroit où il n'y a pas grand monde, où on commence par vous exclure tous ceux qui sont effectivement potentiellement du cyclone, et vous devez quand même néanmoins rendre compte au ministère de l'Intérieur du fait que vous avez effectivement fait quelque chose. Donc vous prenez la fin de la liste, et la fin de la liste va effectivement être tout ça. La deuxième chose que je voulais dire, et qui permet à mon avis de réconcilier vos deux points de vue, c'est que, et là probablement le point de vue de l'historien est très intéressant, c'est que ce qu'il y a d'intéressant dans l'évolution des textes actuels, c'est que pour la première fois dans l'histoire de la République, si effectivement un gouvernement autoritaire débarque et veut se débarrasser de ses opposants politiques, il n'a pas besoin de faire un nouveau texte. Et c'est peut-être ça la grande différence, c'est-à-dire qu'auparavant, à chaque fois, on a eu besoin de légiférer. Aujourd'hui, avec ce qui est passé, et effectivement avec cette qualification terroriste, et on y reviendra cet après-midi, mais la décision de la Chambre criminelle du 10 janvier 2017 qui refuse de séparer l'infraction politique et autres, on n'a plus besoin de faire un nouveau texte pour se débarrasser de son opposant politique, on a juste à le désigner comme tel. Et là, effectivement, l'expérience des régimes autoritaires de type syrien, chinois et autres qui vont systématiquement ou turc pour ce qu'on a pu voir récemment, c'est juste ce basculement, c'est-à-dire désigner à un moment l'adversaire politique comme le terroriste sans plus avoir rien à changer dans les textes. Et c'est là que je rejoins complètement ce que dit Sylvie Desnos, c'est-à-dire il y a quand même un moment où ce qui va constituer la difficulté dans le changement de régime, c'est qui sera désigné comme le terroriste.
Non. Pardon de rebondir, mais on voit déjà qui sont les terroristes. C'est pas les terroristes même. Non, ce que je veux dire, c'est que la désignation de l'opposant politique, elle est déjà là. Enfin, ce sont les zadistes. Le mot zadiste et terroriste a déjà le parallèle a déjà été fait dans l'hémicycle il y a déjà plus de deux ans. Terroriste égale fada des internets.
Excusez-moi, mais vous êtes la preuve vivante des limites de ce que vous dites. C'est-à-dire, vous n'avez pas été assigné, vous n'avez pas été envoyé.
Parce que j'avais une écharpe bleu-blanc-rouge sur moi.
Les régimes dans lesquels, effectivement, ça bascule, la qualité de député ou autre n'empêche pas. On a 143 députés kurdes qui sont.
Mais ce que je veux dire, c'est que les opposants politiques actuels ont déjà été impactés.
Ouais. Il y avait une question ici, et ensuite, peut-être micro, mais il va vraiment falloir. C'est vraiment très court. Hein. Normalement, oui, si possible. Olivier, le micro.
S'il te plaît, je donne une info très rapide, je n'ai pas de questions. Voilà. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est peut-être un peu impoli, je m'en excuse.
C'est un peu impoli, d'autant plus qu'il y a deux personnes avant vous et que nous n'avons plus le temps. Je suis désolée. Nous vous écoutons.
Moi, je voulais aller dans le sens de Madame la députée, ou en tout cas ex-députée, puisque ça m'a, cette conversation entre vous, Madame et la députée, me rappelle une conversation que j'ai eue à l'école, enfin à l'université, avec une de mes collègues, pendant la, à la veille du deuxième tour des élections, où j'ai été sermonné, on m'expliquait qu'il fallait absolument que j'aille voter Macron, parce que si, dans le cadre de l'état d'urgence, Marine Le Pen arrivait au pouvoir, ça serait 100 fois pire, et puis en plus, j'étais pas concerné parce que j'étais parasité, etc. Et ça m'a beaucoup travaillé, et j'en arrive à penser, et j'ai eu des conversations justement avec d'autres collègues universitaires, par exemple, à un moment où on faisait un exposé, on travaillait un exposé sur Al-Qaïda, et donc on était amené à faire des recherches sur Al-Qaïda, donc à taper sur nos moteurs de recherche.
C'est pas moi, hein, pour une fois, c'était pas moi.
Et là, lui, il travaille sur le discours extra-légal développé par les politiques sur l'assassinat ciblé de personnes à l'étranger dans le contexte de la guerre contre le djihadisme. Et on s'est dit, sachant un peu comment fonctionnent les algorithmes des méthodes de l'espionnage de masse, on s'est dit, c'est simple, à partir d'aujourd'hui, c'est à peu près sûr qu'on est rentré dans le système. Et donc, pour aller dans le sens de ce que vous disiez, ça nous concerne tous, et les jeunes universitaires comme nous aussi, parce que dans nos recherches, à travers nos recherches, on est tout de suite fiché, catalogué, et j'avais une discussion avec lui, parce que lui, il aimerait bien préparer les concours pour, par exemple, entrer au Quai d'Orsay ou avoir un poste dans la fonction publique, et il me disait, il regardait... mon fil d'actualité Facebook, et il me disait ah, tu suis Taranis News, ah, tu suis je sais pas qui, un tel journaliste. Et il m'a dit, mais tu prends du temps pour passer. Si jamais tu essaies de postuler, c'est fini pour toi. C'est là que on n'a pas besoin d'attendre Marine Le Pen pour être déjà dans un état de surveillance généralisée.
Mais un changement de régime, c'est encore autre chose.
Et ça, j'ai bien compris. Oui.
Voilà. Mais je me demande, c'est pas le plus dangereux. Voilà.
Mais il y a encore des degrés possibles.
Voilà.
Ouais.
C'est vrai. Mais le changement de régime, je pense que c'est autre chose.
Mais qui nous l'a préparé?
C'est Macron qui l'a inventé.
Une dernière intervention.
Qui nous l'a préparé?
Oui, moi je veux pas. Enfin, je pense qu'il y a un vrai débat qui va se poursuivre, y compris après au moment de la pause, à cet aspect-là. Mais il va de soi que on n'a pas atteint le fond, c'est une évidence, mais on n'a pas atteint le fond. Et il ne faut pas se raconter l'histoire. Et très honnêtement, en prenant en compte tout ce qui a été dit, en le vivant de manière militante, intrinsèquement, dans des cas collectifs, il n'y a pas de souci. Mais du point de vue des changements de régime potentiels, c'est sûr que les choses peuvent encore potentiellement involuer dans les plus mauvais sens de l'histoire du terme. Et en même temps, j'aimerais juste ajouter une chose. Indépendamment du fait de changement de régime potentiel et ce que Marine Le Pen pourrait faire de tout cela, ce qui est certain, c'est que l'ensemble des dispositifs législatifs qui ont été mis en place permettent sans aucun doute l'extrême droitisation du terrain politique, c'est-à-dire permettent demain davantage Marine Le Pen au pouvoir ou l'extrême droite manifestante qu'on a pu voir en Autriche ou ailleurs, c'est-à-dire un glissement préparatoire à une formule un peu totalitaire des régimes dans lesquels nous vivons. Et la deuxième chose, puisque vous parliez, Richard, de rationalisation par le droit, permettez que j'ajoute juste une petite pierre à ce degré de rationalisation. D'un point de vue purement mathématique, je vous le dis comme ça, c'est juste anecdotique, mais quand même c'est juste un peu flippant. En 1929, une théorie d'un mathématicien hongrois démontre très clairement que nous sommes tous liés à n'importe qui dans le monde à 6 degrés, c'est-à-dire, vous comprenez ce qu'on appelle d'ailleurs la théorie des 6 poignées de main, vous pouvez trouver ça sur Internet, c'est concrètement vous êtes lié à M. Barack Obama, pour prendre une figure qui est peut-être un peu moins peur que celle de Trump, indirectement par 6 degrés d'affiliation. À l'échelle de la France, aujourd'hui, sur 1929, avec les réseaux sociaux, à l'échelle de la France, simplement, de la métropole, on est passé de 6 à 3. C'est-à-dire que vous n'êtes pas si loin que ça de M. Macron, semble-t-il, mais encore pas si loin non plus de n'importe quel potentiel terroriste qui existe. Je le dis d'autant plus fortement et fermement que dans ce qui est mis en avant pour montrer du doigt, signer et perquisitionner certaines personnes en particulier, eh bien, c'est faire référence à l'entourage de la personne en question. Tout ça pour dire que, ici, dans cette salle, nous sommes ici, dans cette salle et ailleurs, de par cette simple formule mathématique, nous sommes tous liés les uns aux autres, et évidemment, c'est la porte d'entrée à tout et n'importe quoi de ce point de vue-là.
Je vous remercie, je pense qu'on va clore, puisqu'on a dépassé largement le temps imparti. À tout à l'heure.